On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Pierre Rabhi est un agriculteur, homme politique, écrivain et penseur français. Il défend un mode de société plus respectueux des populations et de la Terre et soutient le développement des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement en préservant les ressources naturelles. Pierre, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont aujourd'hui les conséquences de l'agriculture intensive pratiquée depuis plusieurs années ?
Ben, le bilan, si vous voulez, de quelques décennies d'agriculture, ce qu'on appelle intensive, qui a recours à une forte mécanisation, à des engrais chimiques, à des pesticides de synthèse, qui a réduit considérablement le patrimoine génétique alimentaire, les conséquences sont catastrophiques. Avec le recul, on sera obligé de dire que l'agriculture moderne aura été une catastrophe écologique majeure, parce que les conséquences sont la pollution de l'eau aussi, sont l'environnement qui a été empoisonné, sont la perte considérable d'espèces sauvages, de la biodiversité sauvage, sans compter la biodiversité domestique, c'est-à-dire depuis 12 à 13 000 ans, 10 à 12 000 ans, l'humanité n'a cessé d'augmenter le potentiel alimentaire par ce qu'on appelle les semences, hein, les semences comestibles, etc. 60% de ce potentiel a disparu. Donc, si on s'obstine dans ce schéma-là, non seulement le bilan actuel est très très lourd, immensément lourd, mais ça risque de très mal finir pour l'humanité. Donc elle est destructrice. Ce sont des méthodes qui ne peuvent produire qu'en détruisant. Donc, toute méthode qui ne peut produire qu'en détruisant, finalement, se met une limite quelque part. Elle est en contradiction déjà avec elle-même.
Et pourquoi l'humain, lui, ne suit pas le cycle de l'environnement comme la Terre le fait si bien ?
Non, à l'origine, ce qu'on appelle les primitifs était totalement dans cette cohérence. C'est-à-dire que pour eux, ils se considéraient vraiment comme appartenant à la vie, avaient conscience de cette vie, la respectaient et finalement ne commettaient pas de dégâts contre la nature. Il n'y avait pas d'artificialisation de tout le système, c'est-à-dire qu'en fait, pour eux, ils étaient tellement intégrés à cette réalité-là et à cet ordre-là qu'ils ne commettaient rien qui aille contre cet ordre. C'est ensuite le passage d'un humain, et d'ailleurs on voit bien, par exemple, par les fresques qu'ils ont laissées, les peintures rupestres, etc., qu'ils avaient une forme d'admiration en plus. Ils étaient très observateurs de leur milieu, ils admiraient leur milieu, ils prélevaient ce que leur était nécessaire, sans excès, sans aucun excès, et donc ils étaient dans quelque chose de juste. C'est ensuite, après, le passage à ce qu'on appelle la civilisation. La civilisation qui, elle, s'est donc élaborée, et à ce moment-là, la spiritualité, disons, qui était une spiritualité naturelle chez tout le monde, est passée vers ce qu'on appelle le clergé, c'est-à-dire les spécialistes de la spiritualité. Alors que chacun. Et donc à partir de ce moment-là, la vision a changé. Au lieu de dire j'appartiens à le monde, la réalité m'appartient. Et là, le basculement dans les civilisations, ça a été ça nous appartient. Donc allons-y. Suite notamment à la fameuse révolution néolithique où l'être humain devient agriculteur. Il devient agriculteur dans un premier temps, mais dans une attitude de modéré et sacré. Et ensuite, il y a l'avidité, plus de surface à cultiver, plus de surface pour pâturer, plus de bois pour construire des bateaux, la métallurgie, etc. Et on est rentré dans ce prélèvement excessif qui n'a plus rien à voir avec les limites et le niveau de nos besoins réels. Donc, et à partir de là, ça n'a fait que croître et embellir avec les civilisations, les guerres, les et donc notre rapport à la vie est devenu terriblement prédateur. Terriblement prédateur, et nous sommes devenus vraiment des prédateurs qui excessifs, c'est-à-dire qui allons bien au-delà de des nécessités et de nos besoins pour accumuler, et l'accumulation, c'est le début du capitalisme, hein, c'est le début de quelque chose, d'une logique qui s'est amplifiée et dans laquelle nous sommes aujourd'hui complètement dans ce questionnement de savoir est-ce que la planète va suffire évidemment à cette boulimie qu'a l'humanité de considérer la planète comme un gisement de ressources et non pas comme une oasis de vie.
Donc on sait qu'aujourd'hui la planète est quelque chose de vivant, un organisme vivant régi par des subtiles interactions entre les organismes, on parle d'écosystème. Donc aujourd'hui l'homme est en train de complètement dérégler cet écosystème de par son impact, et à partir de quel moment, enfin quand est-ce que l'homme va se rendre compte qu'il s'éloigne de ce côté spirituel dont vous parliez? Est-ce que vous avez l'impression que les consciences évoluent, changent?
Ben, c'est-à-dire que le drame de l'espèce humaine en tant que telle, c'est que nous sommes des trouillards. Nous portons en nous une peur permanente. Cette peur qui nous est donnée finalement par le fait que nous pouvons nous projeter dans le temps, aussi bien reculer dans le temps que se projeter dans le futur, et que nous sommes dans le questionnement sur la vie et on n'a pas toutes les réponses. Et donc ça a généré chez l'être humain beaucoup d'angoisse. C'est-à-dire que la sécurité physique, je suis dans la grotte, je suis donc en sécurité physique, n'occulte pas ou ne me délivre pas de la sécurité l'insécurité psychique. Et cette insécurité qui me fait imaginer le futur comme étant plein de périls. Hein, et donc ces périls que j'imagine vont m'amener à essayer de trouver une sécurité. D'où d'ailleurs la naissance probablement du religieux, dans le sens où l'homme sentant ses limites, qu'il ne fait pas le poids quand il y a des gros animaux, il se sent tout petit, quand il y a la forêt qui brûle parce qu'il y a la foudre qui tombe du ciel, il s'explique pas très bien, il sait très bien qu'il est mortel, qu'un jour ou l'autre ben il mourra, il s'arrêtera, et donc tout ça accumule énormément de terreur et de peur chez l'être humain, et ce besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité, il se traduit par évidemment la violence est plus l'expression de la faiblesse et de la peur que de la force, c'est-à-dire que en fait, on essaye d'être performant dans la violence parce que c'est une façon de nous exercer de la peur. Si on n'avait pas peur, on ne serait pas violent. La violence vient de la peur. C'est ça qu'elle naît dans la peur. Donc cette insécurité fait que l'être humain, il rentre dans un tourment permanent. Il a besoin d'une divinité, il a besoin d'un dieu protecteur. Il a besoin de rituels qui l'apaisent, il a besoin, et il a comme ça fabriqué toutes sortes de stratagèmes finalement pour tenter de s'apaiser. Et encore aujourd'hui nous portons en nous ces peurs, on est dans la peur permanente de ce qui va nous arriver, de perdre notre emploi, de je ne sais quoi, enfin tout. Donc je pense que la caractéristique de l'homme est ce qui a été pour lui quelque chose de vraiment particulier et assez difficile, c'est qu'il imagine, et l'imaginaire l'apporte. Il a donc un entendement, il a une conscience et un libre arbitre. Et avec cela, il essaye de s'auto-protéger, et puis il finit par déraper complètement parce qu'il veut s'exorciser de tout ce qui peut le menacer.
Avec ma simple goutte d'eau, je peux croire que ça peut changer les choses?
Non, il y a un énorme travail de libération, c'est-à-dire comment se libérer des mythes qui nous font peur, de tout ce qui nous fait peur intérieurement. Ça veut dire que chacun de nous a un travail à faire pour comprendre, identifier ses peurs, comment les dissiper, comment les comprendre. C'est pas simplement... Alors soit on est dans la posture de réactionnel, soit au contraire on est dans la posture de tâcher de s'explorer soi-même pour mettre le doigt sur qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui où est la racine de la peur, etc. Et ça ne peut pas s'apprendre parce que je vais à un congrès sur la peur. Ça ne peut s'apprendre que si je suis attentif à ce qui se passe en moi. Quand j'ai peur, qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que j'observe vraiment profondément? Voilà, j'ai peur, est-ce que j'observe cette peur? Est-ce que je vois comment elle naît? Comment elle s'épanouit? Comment, etc. Et c'est là qu'on rentre tout le mental, disons. Très souvent, la peur est hyper développée par le mental. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... nous avons immédiatement un réflexe de mentalisation qui exacerbe en quelque sorte nos pulsions et nos peurs. Dès que j'ai une appréhension, cette appréhension, je commence déjà à broder sur cette appréhension, tout ce qui peut... Alors qu'en fait, c'est mythologique dans le sens où c'est pas forcément réel. Donc, je ne crois pas que la peur, ça puisse s'évacuer, se décréter. C'est vraiment le travail de chacun de nous sur son intériorité, sur qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je suis en colère, pourquoi j'ai peur, pourquoi j'ai des pulsions négatives, pourquoi, etc. Et donc, ça ramène à soi-même. On ne peut pas le résoudre autrement. Et nous sommes tellement conditionnés aussi. On est tellement conditionnés qu'il faut se libérer de tous ces conditionnements. Il faut pas se dire je suis ceci ou cela, je suis musulman, je suis chrétien, je suis se cantonner dans ces trucs, je suis de gauche, de droite, etc. Tout ça nous aliène, toutes ces choses-là nous aliènent parce que nous sommes c'est du conditionnement, c'est-à-dire c'est véritablement une sorte d'endoctrinement et de conditionnement qui nous a donné à voir le monde d'une certaine façon. Et comment arriver à ce que je regarde les choses de mon regard propre et non pas à travers ce qu'on m'a dit qui était le beau, le laid, le bien, le mal, etc. Est-ce que je suis capable de me libérer de tous les conditionnements qui m'ont été imposés pour vraiment naître à moi-même et à ce moment-là avoir mon opinion à moi? Parce que dès la naissance, malheureusement, chacun de nous naît dans une culture. Il naît dans une civilisation particulière, il naît dans un pays particulier, et toute l'éducation consiste à adapter, à conformer l'individu à la culture dans laquelle il est né. On commence à lui dire, ben voilà ce que c'est que le bien, le mal, voilà ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire, voilà ce qui est beau, ce qui est laid, etc., etc. Et du coup, celui le voisin, ben la conception qu'il a du bien et du mal n'est pas la même que la mienne. Et ainsi de suite. Et donc c'est comme ça qu'on génère tous ces conflits et les conflits que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes parce que nous n'avons pas essayé de nous apaiser intérieurement vont rejaillir sur des conflits avec ceux qui nous entourent. Et le groupe qui nous entoure cumule aussi les conflits et ça s'exacerbe sur les champs de bataille. De toute façon, la nature, je n'ai aucun souci pour la planète Terre. J'ai la planète... je suis assez impliqué dans l'écologie, dans les phénomènes du vivant, dans, ne serait-ce que par mon jardin, par ce que je vois, etc., etc., dans la vie. Et je vois bien que la vie est extrêmement puissante et que on fera pas du... L'homme, certes, va l'écorcher, va provoquer des blessures, certes, et des dérèglements, mais la vie est tellement puissante qu'elle est capable de tout corriger. Moi, j'ai observé vraiment des choses absolument ahurissantes, des stratagèmes que la Terre est capable d'imaginer pour retrouver. De toute façon, l'homme n'arrête pas le processus de la vie. Ne serait-ce que le monde bactérien qui représente des masses de choses. Il paraît que c'est 100 fois le poids de l'humanité, voire même plus. Donc ce monde bactérien, c'est le monde initial de la vie. Et c'est une puissance extraordinaire. Aujourd'hui, on voit bien, par exemple, l'angoisse que nous avons par rapport à des virus et par rapport à des grippes, à des je sais pas quoi. Il peut y avoir parfaitement, la vie peut parfaitement nous éliminer, ne serait-ce que par une apocalypse virale ou microbienne. On ne fait pas absolument pas le poids face à la vie. Donc, ce que nous n'avons pas compris, c'est que nous n'arrêterons pas le processus de la vie. Il est tellement, tellement, tellement puissant que rien ne peut l'arrêter. Et cours de son histoire, la planète a bien démontré qu'elle était capable de reconstituer après des extinctions, de repartir et de rebâtir et ça, elle en est totalement capable. Moi qui suis fils du désert, je suis né étant enfant. Pendant des années, je n'ai vu que de la terrasse de notre maison, je n'ai vu qu'un désert de sable et de rocailles à l'infini. Et il y a eu un jour une pluie exceptionnelle, et cette pluie exceptionnelle a été extraordinaire parce que le désert a verdi d'une façon incroyable. Et on s'est demandé mais comment est-ce que ça peut verdir comme ça alors qu'on a toujours vu dénudés, toujours vu secs. Donc arrêtons de nous prendre pour des gens importants. Arrêtons de nous prendre pour les gens qui dominent la nature. Il y a quelqu'un qui faisait tout un discours dithyrambique à la radio sur l'homme qui a dominé la nature, et 3 mois après il est parti par un virus. On ne domine absolument rien, donc soyons modestes, et c'est là qu'est l'intelligence. L'intelligence, c'est pas tout. Et notre angoisse à l'égard de la nature continue à toute la recherche aujourd'hui scientifique. Moi je vois, c'est toujours le truc prométhéen, une grande partie de la recherche scientifique avec ces stupidités de nano machin, de trucs dans lesquels on s'engage aveuglément. Eh ben, ils vont se retourner contre nous, c'est tout. Si on transgresse, on paye, c'est tout. Alors on se prend pour des gens importants parce qu'on tripote des gènes, on fait des choses qui sont immatures et qui sont l'aveuglement pur, et on croit que tout ça on va dominer, mais c'est faux, on ne domine rien du tout. On pourra faire toutes les nanotechnologies, les machins, les trucs, il reste que nous sommes des mammifères, c'est tout. Et que nous sommes des mammifères avec un trou de balle, et nous mangeons, nous déféquons, nous faisons l'amour, nous nous reproduisons exactement comme une vache ou comme n'importe quel truc. Donc soyons modestes et revenons à cette modestie. Et à partir de cette modestie, nous allons comprendre ce que sont les forces de la vie, et en comprenant les forces de la vie, on va aimer ces forces de la vie. On va trouver ça tellement magique qu'on va être exalté, et on se rendra compte que notre propre corps est magique. Pendant que je vous parle, je dis pas à mon cœur de battre, il bat tout seul. Je suis pas là à me dire il faut que je respire tout seul, le sang circule tout seul. Je viens de prendre mon petit déjeuner, ben mon estomac est en train de le digérer sans même que je suis rien que mon propre corps est déjà un prodige extraordinaire. Tout est réglé, je suis malade immédiatement, il y a une espèce de plan hors sec, on met en route tous les phénomènes d'auto-guérison, etc. Et notre corps qui est déjà le témoignage vraiment de la beauté de la vie et de la force de la vie, on n'y fait pas attention, on le pollue, on le dégrade, on n'est même pas capable d'être attentif à soi-même. Alors tout est mentalisé, alors des gens qui vont dans des laboratoires font des prouesses technologiques ou technobiologiques, mais qui s'ignorent complètement, et donc c'est dommage.
Vous avez utilisé un mot, le mot aimer, le mot amour. Finalement, est-ce que tout ne se résumerait pas dans ce mot amour, un manque d'amour pour soi?
C'est l'ignorance, c'est pas parce qu'on multiplie les académies, tout ce fatras, artificiel, enfin vaniteux de l'autoproclamation de l'être, parce que nous avons peur, alors on a besoin de se sécuriser en créant nos instituts, nos machins, nos trucs, mais finalement c'est infantile. Je crois que cette humilité est absolument indispensable à la compréhension. La compréhension ne peut pas passer par autre chose que cela. J'ai perdu un peu la question.
La question, c'était l'amour de soi, l'amour de l'autre.
Bien sûr. J'ai écrit mon dernier manifeste. Sur mon dernier manifeste, j'ai repris la phrase de Dostoïevski, « Et si la beauté pouvait sauver le monde ?» Et effectivement, je suis parti en méditation sur cette beauté. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que la beauté ? La beauté, évidemment, est d'abord une chose qui est subjective. Selon ma culture, je vais voir qu'une chose est belle ou laide. Si vous à une culture qui ne connaît pas Mozart, vous jouez Mozart, les gens ils vont bâiller, ils vont trouver ça vraiment sans intérêt, alors que d'autres, ça va les exalter. Le même tableau, vous le montrez aux uns, ils vont s'exalter, les autres... etc. Et le même artiste qui va faire des magnifiques choses, il va être laid dans sa vie, il va être méchant, c'est pas forcément parce qu'il traduit la beauté qu'il est lui-même beau. Tout ça nous amène à un questionnement extrêmement profond sur, et puis cette laideur de faire de la beauté artificielle du capital, de la spéculation, de tout ça, même si il s'agissait de cette beauté, elle est le business que l'on fait autour de ce que l'humanité génère comme esthétique ou comme ce qui est soi-disant beau, ça n'a pas sauvé le monde. Ça n'a pas sauvé le monde d'avoir des tonnes, d'avoir des monuments magnifiques, d'avoir des belles cathédrales, d'avoir des beaux tableaux, d'avoir de belles musiques, d'avoir... Est-ce que ça a sauvé le monde? Non, ça n'a pas sauvé le monde. Donc ça nous amène à dire, mais quelle est la beauté qui peut sauver le monde? Eh bien, la seule beauté extraordinaire qui peut sauver le monde, c'est la générosité, c'est la compassion, c'est la justice, c'est l'équité. Ça, c'est la beauté qui peut sauver le monde. Le reste, c'est pas parce qu'on va multiplier les tableaux et les musiques que le monde va être sauvé. Donc cette beauté-là, eh bien, c'est l'amour. Voilà. Et cette beauté-là est une force incommensurable. C'est-à-dire que c'est la seule force qui est capable de produire les plus grands miracles. Et si on était habité par cet amour, eh bien, on bouleverserait le monde. Notre relation changerait. Nos relations aux autres, à nos compagnons, à nos compagnes, nos relations à l'amitié, la compassion, toute l'attention, etc. Ça peut sauver le monde. Mais c'est certainement pas des tableaux ou des musiques aussi nombreux soient-ils.
Mais c'est une impasse parce qu'on parle justement de développement économique, de croissance, donc consommer moins. C'est pas la logique de notre société actuelle.
Ben oui, c'est pour ça que je propose la sobriété heureuse. C'est parce que la logique actuelle, c'est de vous dire vous n'avez jamais assez. La télévision, la publicité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pas vous avez assez, soyez heureux. Vous avez à manger, vous êtes habillé, vous avez un toit sur la tête. Il faut régler ces problèmes-là. Ces problèmes-là sont urgents. Que chaque citoyen ait un toit, puisse manger à sa faim, puisse tout ça. Tout ça, c'est là qu'est l'urgence. C'est pas dans toutes ces vanités à faire des grands projets pharaoniques, etc. Avant même d'avoir réglé les problèmes, ce que chaque citoyen simplement est un abri sur sa tête, on est là dans des projets politiques qui n'en finissent pas pharaoniques parce que bon, les présidents qui succèdent et les gouvernements qui succèdent ont envie de marquer l'histoire. C'est tellement bien de marquer l'histoire, comme le pharaon l'a fait. On est dans une espèce d'attitude pharaonique. Je veux pas mourir sans avoir laissé derrière moi quelque chose qui va me perpétuer aux yeux de la postérité. C'est stupide. L'urgence aujourd'hui, c'est de nourrir les gens. C'est de faire que les gens soient vêtus, soient abrités. C'est ça une gestion politique. C'est pas tout ce fatras immature dans lequel nous sommes aujourd'hui avec le politique.
Qu'est-ce que vous entendez par la sobriété heureuse?
D'un économiste roumain, je crois qu'il était citoyen américain, mais économiste roumain, qui parlait suite à la, bien plus tard que le Club de Rome, je crois, sur la nécessité d'une décroissance soutenable. Alors cette décroissance soutenable était plus difficile à faire comprendre parce qu'elle s'inscrivait strictement dans quelque chose de, comment dire, d'économique strict. Et je me suis dit, c'est froid, les gens le reçoivent mal, ça paraît presque une menace d'appauvrissement, alors qu'en fait Reagan, c'était pas du tout une menace d'appauvrissement, c'était au contraire, il disait qu'il n'y a qu'une économie qui vaille, c'est celle qui produit du bonheur. Si elle ne produit pas de bonheur, ça sert à rien. Et c'est vrai que pour moi, c'est une évidence. Et ça faisait longtemps d'ailleurs que c'était une évidence. J'avais écrit un livre en 84, appelé du Sahara aux Cévennes, et il y a un chapitre sur lequel j'ai mis la pauvreté en tant que valeur de bien-être, parce que nous avons adopté, si vous voulez, cette modération pour ne pas tomber dans le productivisme stérile, dans le productivisme. Et donc c'est vraiment pour nous, et pour moi en tout cas, c'est une évidence que dans la simplicité il y a du vrai bonheur dans la simplicité. Alors c'est pour ça que j'ai renoncé un peu à la décroissance pour aller vers la sobriété heureuse. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'angoisse du toujours plus qui ne satisfait pas, on voit des gens millionnaires et ils sont pas forcément heureux pour autant. Je veux dire, il est vrai que j'ai manqué d'argent dans une période de ma vie et c'est très embêtant. C'est très embêtant de manquer d'argent dans une société où l'argent est l'élément de l'échange. Mais d'un autre côté, je sais que quand j'ai ce qu'il faut, eh bien, je suis profondément heureux. C'est-à-dire que je suis tranquillisé sur l'avoir pour pouvoir être un peu plus, quoi. Sinon, on est dans l'avoir et pas assez dans l'être. Aujourd'hui, on renonce à ce que la nature nous donne, la beauté de la nature, le temps qu'on peut perdre. Pourquoi est-ce qu'on serait tout le temps en train de gagner du temps? Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de perdre du temps? Et j'ai le droit de perdre du temps, j'ai le droit de rester dans mon songe profond, à la condition de ne peser sur personne. Je réponds entièrement à mes besoins, je suis pas à la charge de qui que ce soit, mais j'assume ma vie, celle de mes enfants, et je me donne le droit d'avoir du temps, de même de ne rien faire si j'ai envie de rien faire, dès lors que j'ai répondu à mes besoins, sans être à la charge de personne. Or aujourd'hui, time is money, c'est-à-dire que l'individu est complètement aliéné par cette notion du temps. Faut travailler. Je cite une anecdote souvent dans mes conférences, où chez moi, je suis né dans le désert, et les Français avaient découvert du charbon, et ils ont embauché les gens, et certains, le premier mois, ils touchaient leur salaire, ils revenaient plus. Et quand on leur disait, mais pourquoi tu n'es pas revenu, ils disaient, mais j'avais pas fini de dépenser mes sous. C'est-à-dire que pour eux, je comprenais pas très bien, du moment que j'ai de quoi vivre, eh bien, je dois vivre. Mais on va pas faire du travail une religion, un devoir absolu pour aboutir finalement à évaluer que 40% de l'effort qu'on a consenti à cette religion du travail correspond à produire des choses inutiles. Donc produisons des choses utiles, vraiment utiles, et ensuite donnons-nous le temps de vivre. Mais si toute ma vie je suis producteur, consommateur, comme un rouage économique qui fonctionne sans arrêt, à quoi aura servi ma vie? J'aurais pas joui de mes enfants, j'aurais pas joui de ma famille, j'aurais pas joui de la nature, j'aurais pas joui de ce qui m'est donné gratuitement, des beaux paysages, le chant des oiseaux, toute cette beauté qui nous est donnée pour nous épanouir, nous y renonçons et nous nous mettons simplement à travailler pour accumuler de l'argent qui lui-même est concentré entre les mains de quelques-uns, au détriment du plus grand nombre. Donc pour moi, c'est une forme d'aliénation, voire même d'esclavage, quelque part, parce que si mon effort ne correspond pas à générer dans le monde de l'équité, c'est du partage, c'est que je suis un esclave, c'est tout. Et quand je fais en plus quelque chose qui ne me plaît pas, uniquement parce qu'il faut bien que je mette quelque chose dans ma gamelle, ben non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, on en est à se demander s'il existe une vie avant la mort. Après la mort, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'avant la mort, eh bien, je veux vivre. Je veux vivre pleinement. Je veux goûter la vie. Je veux la croquer à pleines dents. Je veux jouir de ce qui m'est donné. Après la mort, je n'en sais rien. S'il y avait un enquêteur qui vient de je sais pas quoi, d'une autre planète, il comprendrait rien du tout parce que on n'est même pas d'accord sur ce qu'il va y avoir après la mort. Après la mort, on n'en sait rien. Par contre, ce que je sais, c'est que la vie est là. Et cette vie-là, ne la gâchons pas. Ne la gâchons pas de façon à ne pas se dire un jour, est-ce qu'il existe vraiment une vie avant la mort? Et qu'est-ce que la vie? Et qu'est-ce que vivre? Toutes ces questions, on se les pose pas. On est là dans griser, dans nos trucs, nos fatras de machines. D'ailleurs, il y en a une là. Hein. Je ne suis pas contre les machines. Mais on est grisé tellement par tout ça que on oublie complètement que ces outils-là sont pour servir la vie et non pas pour nous asservir et pour nous rendre tellement dépendants qu'on peut plus s'en passer.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone Zéro,
une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus vite.